Premièrement, merci de m'avoir invité ce soir à partager ce temps avec vous. Je suis très content de l'invitation et de pouvoir l'accepter. J'aimerais commencer cette méditation en attirant votre attention au fait que ce passage que je viens de lire du prophète Ésaïe, ce passage où l'on annonce que Dieu m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, ce passage, c'est le passage que Jésus lui-même a choisi quand il a commencé son ministère dans la synagogue de Nazareth, ce qu'on lit dans l'Évangile de Luc. C'est de cette manière que Jésus a choisi de s'ouvrir à ses frères et ses sœurs de la communauté juive. Et c'est avec ces paroles qu'il a choisi d'expliquer sa mission, sa vision, sa raison d'être. Et si on veut utiliser un langage moderne du monde des affaires, c'est l'image qu'il voulait projeter. Son marque de commerce, son marketing, son branding. Je suis celui que Dieu a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à tous ceux et celles qui souffrent. J'apporte un message de joie. Et c'est avec ce message de confort et d'optimisme qu'il a choisi de démarrer un ministère qui a terminé 3 ans plus tard sur une colline à Jérusalem, une colline de la mort, de la crucifixion. Un peu décevant, non? Celui qui a été envoyé pour porter de bonnes nouvelles finit par être cloué à une croix. Humilié, de toute évidence, un échec total, son propre corps brisé. On sait bien que 3e jour après, il est ressuscité, et ça on le sait. Mais ce vendredi-là, au pied de cette croix, entouré par sa mère et ceux et celles qu'il aimait, à côté de ceux et celles qui riaient ou qui moquaient, parler de joie ou de confort, de bonnes nouvelles, pas sûr. Cette journée-là, on voit ce qu'on voit. Sans avoir la fin de l'histoire devant nous, sans compréhension de ce qui se passe actuellement, ce spectacle d'un homme en qui j'avais investi tant d'espoir, un homme qui prêchait une nouvelle façon de voir le monde, cet homme avec son corps brisé attaché à la croix me laisse plutôt déprimé, sans joie. Heureusement, comme j'ai dit, nous ne sommes pas complètement sans espoir, nous avons la fin de l'histoire. On sait que Jésus est ressuscité un peu après. On a une certaine compréhension de ce qui s'est passé ce vendredi-là. Mais cette image du corps de Christ, du corps de Jésus brisé, me hante un peu depuis un certain temps. Et surtout cette semaine de la prière pour l'unité chrétienne. Cette image me hante un peu parce que nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Et de toute évidence, nous sommes brisés. Nous devons incarner ce message de joie et de bonne nouvelle. Nous sommes appelés à continuer le travail que Jésus a commencé il y a 2000 ans. Il y a toujours les captifs à libérer. Il y a toujours ceux qui ont le cœur brisé. Il y a toujours les pauvres. Il y a toujours les gens dans le deuil. Il y a toujours la souffrance autour de nous. Et notre propre corps est brisé, fragmenté. De toute évidence, notre tentative de rester fidèle à la notion de l'unité en Christ, en quelque sorte, est un échec. Peut-être pas un échec total, mais un échec quand même. On n'arrive pas à s'entendre sur comment vivre ensemble, nous les chrétiens. On n'est même pas sûr. On veut vivre ensemble, parfois. De l'un côté ou de l'autre côté, on regarde les membres variés du corps avec suspicion, un peu suspect. Est-il vraiment partie du corps de Christ? Dis-moi pas que ça c'est un pied. Pied de singe, peut-être. Tiens, veut-on vraiment une barbe? Rasons-le, s'il vous plaît. Ça, c'était une blague. Ce corps est divisé en catholiques, en orthodoxes, luthériens, presbytériens, anglicanes, méthodistes. baptistes, pentecôtistes, mennonites, etc., etc. Je suis moi-même membre de l'Église mennonite. Et quand on pense à l'unité chrétienne, parfois on a tendance à penser à l'unité structurelle de toutes les formes de christianisme. Mais comment le médecin peut guérir quand son propre corps a besoin de guérison dans ce cas-là? Et pourtant, le corps n'est pas les vêtements qui l'enveloppent. Le soulier n'est pas le pied. Le chapeau n'est pas la tête. Et le manteau n'est pas le dos. Peut-être nos structures ecclésiastiques, si différentes l'un de l'autre qu'ils donnent l'impression d'un corps brisé, peut-être ils ne sont pas le corps, mais les vêtements que les différentes parties du corps choisissent. Est-ce possible, par exemple, que l'Église catholique est comme la chemise qui couvre les bras du corps? Est-ce possible que l'Église orthodoxe est comme les pantalons qui couvrent les jambes du corps? Est-ce possible que l'Église luthérienne est comme les souliers qui couvrent les pieds du corps? Est-ce possible que l'Église pentecôtiste est comme le chandail qui garde le cœur du corps chaud? Est-ce possible que les mennonites sont comme les culottes qui couvrent les parties du corps les plus modestes? Comme je dis, je suis moi-même membre de l'Église mennonite. Est-ce possible que le corps de Christ lui-même n'est pas identique à ses accoutrements, qui sont distincts l'un de l'autre, mais plutôt toi et moi? Peut-être ce corps brisé est plutôt l'apparence. On voit ce qu'on voit, l'apparence donnée par les vêtements qui distinguent l'un de l'autre et qui sont par nature des créations de l'être humain. Est-ce possible que le corps de Christ, la création de Dieu, est formé de toi et de moi, peu importe les vêtements que nous portons? Et est-ce possible que l'appel d'Ésaïe et de Luc, que nous sommes envoyés pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, n'est pas autant une directive à la structure de l'Église catholique ou à l'Église mennonite ou les autres églises, mais un appel directement au corps, à toi et à moi. Qui sont les gens autour de toi qui ont besoin de recevoir une bonne nouvelle de ta part? Qui sont les gens autour de toi qui ont besoin de recevoir un pansement parce que le cœur est brisé? Comment peux-tu être un messager de joie aujourd'hui? Amen.